RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et à la une ce matin, les armes qui s'expriment toujours dans l'est de la RDC alors qu'un accord préliminaire de paix a été signé avant-hier entre la RDC et le Rwanda. Un accord qui doit désormais être signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays la semaine prochaine. Deux lourdes condamnations et un acquittement hier à Bangui. La Cour pénale spéciale a rendu en Centrafrique son verdict dans l'affaire Ndélé 2. La scène politique camerounaise ensuite et le parti d'opposition SDF qui dénonce la destruction de ses locaux à Yaoundé. C'est un litige privé qui en est à l'origine, répond le clan présidentiel. Au Kenya, nouvelle affaire impliquant des policiers devant la justice. Deux officiers accusés d'avoir tiré sur un vendeur de rue mardi, jour de manifestation contre les violences policières, justement. Ce 20 juin marque comme tous les ans la journée mondiale des réfugiés. RFI se met à la page, ce sera le dossier de cette édition. Et puis, à Madagascar, le sacre du nouveau roi de la communauté Sakalave, attendu aujourd'hui. À l'heure où la diplomatie semble progresser entre la RDC et le Rwanda avec un accord préliminaire de paix signé avant-hier par les négociateurs à Washington et avec la promesse d'une signature au niveau gouvernemental la semaine prochaine, le 27 juin, eh bien, en attendant, les armes ne s'arrêtent pas pour autant malgré un cessez-le-feu censé être entré en vigueur depuis le mois d'avril dans l'est de la RDC. En effet, Alexandra Branjon, des affrontements sont encore constatés sur le terrain quasi quotidiennement.
Selon des sources sécuritaires, de violents combats ont éclaté hier dans le sud Kivu, près de Minembwe, entre l'armée congolaise soutenue par des milices Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Deux jours plus tôt, des affrontements ont eu lieu à Chirunga, une dizaine de kilomètres à l'ouest de Bukavu, ainsi qu'à Katana, à une vingtaine de kilomètres plus au nord. Dans certains cas, il s'agit d'accrochages plutôt que de véritables affrontements, commente une source locale. Même constat dans la province voisine du Nord Kivu, où d'intenses combats ont eu lieu ces dernières semaines entre combattants AFC M23 et Wazalendo, à Kisimba, dans le territoire de Walikale, et autour de Buito, dans le territoire de Rutshuru, un bastion des combattants hutu-rwandais FDLR. Même si l'importante offensive de l'AFC M23 en janvier-février est terminée, des combats de moindre intensité continuent, font remarquer plusieurs sources. Il s'agit de poches de résistance dont le M23 n'arrive pas à se débarrasser. Ces derniers sont présents sur les principaux axes et les grandes agglomérations pour contrôler le flux migratoire et économique, commente le chercheur Henri Pacifique Mayala, mais ils ne peuvent pas être partout. Ils n'ont pas assez d'hommes, ajoute-t-il.
Alexandra Branjon, la paix reviendra-t-elle donc dans l'est de la RDC? Un voisin de Kinshasa veut y croire, en tout cas, c'est Brazzaville. Thierry Mungala, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, sera notre invité après ce journal. Restez à l'écoute. Pour l'instant, un mot encore sur la RDC et ce drame hier au Nord Kivu, dans une zone justement contrôlée par la AFC M23. Une dizaine de creuseurs artisanaux ont perdu la vie dans le site minier de Rubaya. Selon des sources concordantes, les creuseurs ont été engloutis dans un éboulement. Une dizaine de corps ont été sortis des décombres, selon des familles de victimes, alors que d'autres creuseurs restent quant à eux engloutis.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
C'était le troisième procès dans l'histoire de la Cour pénale spéciale mise en place en Centrafrique. Cette cour, créée en 2015, inaugurée en 2018, composée de juges nationaux et internationaux, elle a prononcé hier de lourdes condamnations et un acquittement dans l'affaire dite Ndélé 2. Les faits remontent au mois de mars 2020. Il y a des affrontements dans la ville de Ndélé, dans l'Est, entre deux factions du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, le FPRC. Des combats ayant provoqué la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À Bangui, compte rendu de Rolf Stéphanieux.
Sur les 7 accusés mis en examen, seulement 3 avaient été arrêtés entre 2020 et 2023. À l'issue des 7 mois de procès, la cour a acquitté l'un d'entre eux, à savoir Omar Serge Abdoulaye Assana. Les deux autres, Abdraman Seliman alias Ada et Amat Younous alias Mahamad Encadreur, ont été coupés de 20 et 18 ans d'emprisonnement ferme. Maître Albert Panda, avocat de la partie civile, apprécie ce verdict.
Le droit a été dit. Aujourd'hui, la justice a déterminé les coupables, a déterminé les auteurs. Ils ne sont pas tous là, mais je peux dire que pour les victimes, ça va amener au moins un apaisement. Mais ce n'est pas fini puisque le président de la cour a indiqué que nous allons nous retrouver après pour des audiences qui vont concerner les réparations.
Les quatre autres accusés sont toujours en fuite. Jugés par contumace, deux sont condamnés à 25 ans et les deux autres à 20 ans. Maître Benoît Sarasenge, l'un des avocats de la défense, conteste cette décision.
On a décrié l'absence de preuves qui démontrent la suffisance que nos clients ont posé l'acte de manière personnelle. La section d'assises a condamné mon client à 20 ans d'emprisonnement. Il y a les voies de recours, on ne va pas baisser les bras. Jusqu'à ce jour, aucune preuve n'a été présentée comme quoi il a posé un tel acte criminel pour lequel il doit époper 20 ans d'emprisonnement.
La défense entend faire appel du jugement. Rolf Esteve Domiale, Bangui, RFI.
Au Cameroun, le parti d'opposition SDF dénonce la destruction d'une partie de ses locaux mercredi à Yaoundé, un bâtiment dans lequel le parti avait installé un centre d'appel téléphonique pour mobiliser les électeurs en vue de la présidentielle d'octobre. Cette démolition est liée aux demandes d'un officier supérieur de la gendarmerie qui revendique la propriété du titre foncier. Mais pour Louis-Marie Cagdeux, le vice-président du SDF, cette destruction serait arbitraire, illégale et surtout un acte d'intimidation.
Le juge a rendu le jugement sans convoquer une audience. On a 35 ans d'existence dans la vie politique dans ce pays. On connaît un peu comment les gens fonctionnent. Tout est faux dans le document qui est présenté. Il faudrait que nous sachions dans quel cadre et pour quel intérêt cet officier supérieur a agi. D'ailleurs que son nom ne figure nulle part. Donc quand on fait un montage pareil, il faudrait qu'on sache bien dans quoi on est. Et il faut toujours avoir de tout dans son sac. Quand on travaille dans ce pays, rien ne va s'arrêter. Ils ont détruit un centre, on va reconstituer. Et on dit qu'il n'y aura pas, l'intimidation ne marchera pas. Donc nous allons aller à ces élections, quel que soit le cas, pour que ce pays qui est béni de Dieu, qui a toutes les ressources que les autres pays africains n'ont pas, mais qui est toujours à la traîne, pour que ce pays avance.
Louis-Marie Cagdeux, le vice-président du SDF, et notons cette réaction de Patrick Riffo, le communicant du parti présidentiel camerounais. Il affirme, je cite, que ce n'est pas en tentant de politiser un litige privé que le SDF réussira à rassembler davantage de Camerounais. Fin de citation. Une nouvelle affaire impliquant des policiers au Kenya. Deux officiers présentés hier à la justice. Ils sont accusés d'avoir agressé et tiré sur un vendeur de rue mardi, Boniface Kairuki, aujourd'hui à l'hôpital dans un état critique. Et cela alors que les défenseurs des droits de l'homme avaient appelé à un rassemblement le même jour, mardi, pour dénoncer justement les violences policières. À Nairobi, Gaël Lalex.
Capuche sur la tête, visage recouvert d'un masque chirurgical, c'est le regard bas que les deux policiers sont entrés dans le tribunal de Milimani hier. Ils ont été filmés par différentes sources en train d'agresser un vendeur de rue lors d'une manifestation en centre-ville mardi. L'un d'entre eux lui tire une balle en caoutchouc à bout portant dans la tête. Compte tenu de la gravité des faits, la cour a décidé qu'il demeurerait 15 jours en détention, le temps que l'IPOA, l'autorité indépendante de surveillance de la police, mène son enquête. Nous ne pouvons rester les bras croisés et regarder nos institutions fondamentales se transformer en machines à orchestrer des atrocités criminelles contre la population, s'indigne sur X Face Odhiambo, présidente de la Société kényane du droit. L'inspecteur général adjoint de la police, Eliud Lagat, était également entendu par l'IPOA hier dans une autre affaire, celle de la mort en détention d'un blogueur qu'il avait accusé de corruption sur les réseaux sociaux. Le président de l'IPOA affirme avoir suffisamment d'éléments pour justifier cette audition. Les conclusions de l'enquête sont attendues pour la semaine prochaine. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Le 20 juin, une date qui marque chaque année la journée mondiale des réfugiés. Une thématique chère à RFI qui retrace régulièrement le parcours de ces millions d'exilés qui tentent de se construire une nouvelle vie. Mais pour cela, encore faut-il avoir le statut de réfugié, car rappelons-le, oui, c'est avant tout un statut juridique offert par les états d'accueil. Et cela pose parfois des problèmes, comme pour ce cas identifié par notre correspondante Juliette Dubois au Sénégal, un parcours parmi d'autres qui illustre les difficultés rencontrées sur ce chemin de l'exil.
Depuis plusieurs années, Lucas Tokpa vit dans cette petite chambre à Dakar. Cet Ivoirien de 35 ans a obtenu le statut de réfugié au Libéria en 2011 après la crise ivoirienne. Mais en 2016, Lucas doit quitter son pays d'accueil à cause de l'épidémie d'Ebola. Il se retrouve au Sénégal.
J'ai choisi le Sénégal parce que c'est un pays francophone où je pouvais m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Et un pays CDAO où je pouvais avoir plus de chances, comme je le pensais. Mais malheureusement, arrivé ici, ils m'ont amené encore, malgré tous ces documents qu'ils m'ont donnés, ils m'ont amené à reprendre encore la procédure de statut réfugié.
Au bout de 3 ans, on lui refuse, sous prétexte qu'il ne peut pas avoir le statut de réfugié 2 fois. Il a peur de représailles s'il retourne en Côte d'Ivoire et tous ses papiers et récépissés ont expiré.
Aujourd'hui, je ne possède rien. Même pour le contrôle de la police, je suis toujours pris et je suis obligé de payer de l'argent pour qu'on me libère. Je suis en situation irrégulière, rien comme papier. Je ne peux signer aucun contrat au Sénégal, je ne peux travailler même dans aucune société.
Dans une pochette, il garde précieusement les correspondances qu'il a adressées à différentes autorités.
Tous les ambassadeurs ont été au courant de tous ces trucs-là, où j'ai écrit. Ça, c'est l'ambassade du Canada. Ça, c'est audience demandée au procureur.
Pour se faire entendre, Lucas manifeste aussi régulièrement devant les bureaux du HCR à Dakar avec d'autres dans la même situation, espérant qu'un jour, son statut et son histoire seront enfin reconnus. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
On le comprend donc, le statut de réfugié ne va pas de soi, il faut une reconnaissance officielle. Mais certaines associations se mobilisent pour pallier les lacunes des États et celles du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies également. À l'image de l'association Caritas et de son Paris, le point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés à Dakar. Sœur Joséphine Gonégay est la responsable de ce Paris.
Normalement, quand tu as le statut, tu devais être prise en charge par le Haut Commissariat des réfugiés, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, ces réfugiés reviennent encore vers nous. Et l'État ne fait pas de grandes choses pour ces gens-là, à part t'octroyer le statut de réfugié. Mais il n'y a rien qui est organisé pour s'occuper de ces réfugiés qui arrivent. Parce que quand ces gens-là arrivent, qui sont dans les rues, il faut s'occuper d'eux. Et le Sénégal étant dans CEDEAO qui est reconnu, je pense qu'on pouvait mieux organiser pour prendre en charge cette cible des réfugiés qui arrivent dans notre pays. Ce qui devait être fait surtout, c'est de redonner la dignité à ces personnes. D'abord un logement. La prise en charge sanitaire devait être gratuite. Et à plus de ça, peut-être les aider aussi à être autonomes en les faisant des petits financements comme ce qu'on fait le Paris pour que ces gens-là puissent avoir un peu d'activité.
Sœur Joséphine Gonégay au Sénégal. Allez, direction Madagascar à présent, où la communauté Sakalav s'apprête à célébrer son nouveau souverain aujourd'hui. Il s'agit de Georges Kamam, fils, 61 ans. Il sera intronisé à Belou-sur-Tibiribine. Il est l'arrière-petit-fils du roi Touer qui avait été décapité par les troupes coloniales françaises. Et c'est justement ce nouveau roi qui aura notamment la charge de porter les cérémonies de restitution du crâne de son aïeul par la France en août prochain. Alors à quelques heures de sa montée sur le trône, il a accepté de rencontrer notre correspondante Sarah Teto.
Si les rites Sakalav ont démarré hier soir avec la consommation d'hydromel, la boisson des rois, pour invoquer la bénédiction des esprits, c'est véritablement tout à l'heure, à 10h, heure locale, que Georges Area Kamam fendra la foule composée de milliers de Sakalav venus de toute la région pour l'acclamer et voir son visage. Pieds nus, tête nue, parés d'un pagne dont la couleur et les motifs ne seront révélés qu'au moment de la cérémonie pour éviter de ne porter malheur, le descendant direct du roi Touer sera alors purifié.
Symboliquement, c'est une initiation. Il n'y aura pas de couronne, il n'y aura pas de remise de sabre. C'est plus spirituel que matériel. Hein. Mais c'est une transmission d'énergie de la part des esprits des ancêtres. C'est-à-dire que les esprits des défunts rois Sakalav, ils seront là tout à l'heure à me bénir avec de l'eau de Tiribine, le fleuve sacré chez les Sakalav.
Au-delà de la cérémonie, le nouvel Ampanit, ou l'héritier du trône, aura une charge particulièrement singulière qu'aucun de ses ancêtres n'a jamais dû accomplir.
Le rôle d'un roi Sakalav en 2025, à la veille de la restitution, c'est de faciliter dans les rites traditionnels le retour de ces 3 crânes Sakalav suivant strictement les rites de la culture Sakalav.
Une réparation qui devrait avoir lieu le 29 août prochain. La famille royale Sakalav devrait alors réceptionner le crâne que les Malgaches identifient comme celui de leur souverain décapité et refermer ainsi une blessure vieille de 128 ans. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et c'est donc à Madagascar que se termine notre journal. Mais la matinale continue avec Julien Coquel-Rohem.